Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Jordan Bardella, député européen, vice-président du Rassemblement National. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour ce grand jury à mes côtés, pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Alexis. Et Adrien Gindre de TF1 LCI.
Bonjour.
Bonjour Adrien. Dans notre rubrique La Question en plus, c'est Marine Tondelier, élue écologiste d'Hénin-Beaumont, qui vous interpellera, Jordan Bardella, sur les frais de justice dans les villes que vous dirigez. Et puis le grand jury est bien sûr une émission interactive, vous le savez. Vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux. Hashtag le grand jury. Vos commentaires, vos questions à l'invité, et c'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui viendra les relayer en fin d'émission. Alors Jordan Bardella, vous voilà député européen après une campagne victorieuse aux dernières élections. Vous avez aussi gagné vos galons au sein du Rassemblement National, dont vous êtes dorénavant vice-président. Au point que certains vous voient déjà prendre la relève de Marine Le Pen. Il y a du Sarkozy en vous, affirme même un ancien ministre du président retraité, Thierry Mariani, qui a rejoint votre parti. Car dit-il, vous avez réponse à tout. Réponse à tout peut-être, mais encore faut-il que ce soit les réponses qu'attendent les Français, notamment sur les retraites, l'immigration, encore les questions de société comme la PMA. Nous en parlerons bien sûr dans la première partie de cette émission. Mais votre ascension, Jordan Bardella, pourrait être contrariée par une autre star montante du Rassemblement National, Marion Maréchal, même si officiellement la nièce de Marine Le Pen est retirée de la vie politique. Nous en parlerons également dans ce grand jury, car sur la stratégie de conquête du pouvoir, vous n'êtes pas sur la même ligne. Mais nous commencions bien sûr par l'actualité principale de cette semaine, la canicule. La première question vous est posée par Adrien Gindre.
Votre collègue du Rassemblement National, le député Sébastien Chenu, a accusé le gouvernement cette semaine de brasser beaucoup d'air quand la France enregistre des records de température au-delà de 45 degrés, quand il y a des victimes, puisqu'il y aura des morts de cette canicule, on aura les chiffres définitifs d'ici quelques jours. Est-ce qu'on peut vraiment accuser le gouvernement d'en faire trop ?
Non mais le gouvernement, si vous voulez, est dans son rôle. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il en fait trop ou non. Je pense que les Français n'attendent pas Monsieur Castaner pour savoir qu'il faut boire de l'eau lorsqu'il fait chaud. Si vous me permettez, l'expression. Maintenant, c'est vrai qu'on les voit relativement actifs cette semaine. On les a vus intervenir régulièrement dans les médias. J'aurais aimé qu'on les entende sur les sujets politiques post-élection européenne. Je pense à la crise dans les systèmes de santé, la crise du personnel de santé qui est descendu manifester en grève pour réclamer beaucoup plus de moyens. Les pompiers qui eux aussi manifestent face à une situation qui leur apparaît désormais insoutenable, à savoir le manque de moyens, les agressions qu'ils subissent à répétition dans un certain nombre de territoires, la crise des migrants qui se poursuit et qui est agitée encore cette semaine. Sur tous ces grands sujets politiques, on n'a pas entendu
le gouvernement. Est-ce que Sébastien Chenu dit ils en ont fait, le gouvernement a fait un sujet politique, par exemple en reportant le brevet à demain et à mardi? Est-ce que vous estimez que c'était
raison, mais si vous voulez, il faut distinguer ce qui relève du bon sens et de la logique et de ce qui relève de la politique. Bon, voilà, ce sont des sujets sur lesquels il n'y a pas de politique à faire, il n'y a pas de politique
et
à
le
faire.
Le gouvernement en fait, vous
sur la canicule, pardon.
Le gouvernement fait de la politique, vous avez.
Mais je ne sais pas, mais en l'occurrence, effectivement, on les a vus très actifs sur ce sujet, alors qu'il y a des urgences économiques, sociales et migratoires
tout ça,
sur lesquelles le gouvernement a été totalement
mais
absent.
Vous estimez
maintenant, s'agissant du climat, si vous voulez, c'est quand même. Assez intriguant de les entendre bavasser sur le climat quand M. Macron vient de signer il y a quelques jours le Mercosur, qui a vocation à accélérer ce modèle économique basé sur le libre-échange,
faisons un sujet
sur
les
échanges toujours plus accélérés dans la mondialisation, à l'heure où peut-être le libre-échange est peut-être une des conséquences de l'émission de gaz à effet de serre de manière massive dans le monde.
Alexis, on va essayer, Brézé, sans trop bavasser, essayer de dire encore deux mots du climat. Cet épisode caniculaire, pour vous, c'est la manifestation du réchauffement ou ça n'a rien à voir. Vous en êtes où, vous, sur cette idée de réchauffement climatique ?
Mais je considère que s'il y a une responsabilité humaine dans ce qui apparaît comme un réchauffement climatique, il en va de notre modèle économique dont je vous parlais. Et on ne peut pas, si vous voulez,
vous
s'inquiéter...
s'il y a, ça veut dire
non,
qu'il y a
mais,
ou
je pas, pas Je ne suis pas expert, mais je constate que le modèle économique...
Il y a eu des rapports d'experts à l'échelle
internationale. Je constate que le modèle économique qui est le nôtre, qui est basé sur un libre-échange dérégulé et qui vise à ce que 60 000 tankers traversent la planète de manière permanente chaque année, est une des principales causes de l'émission des particules fines et du réchauffement, du moins de l'émission de gaz à effet de serre, qui ont des conséquences dramatiques
mais
sur le climat.
Mais est-ce que pour vous, il y a un réchauffement de
mais
la planète
Je
ou
dis
pas,
juste que sur cette question,
est-ce qu'il y a un dérèglement climatique ?
Sortir un petit peu du catastrophisme et de l'hystérie. Il y a devant nous un défi environnemental, avec probablement un défi climatique qui est peut-être l'un des défis auxquels va devoir faire face l'humanité dans ce siècle. Mais je dis qu'on n'arrivera pas à résoudre cette question de manière raisonnée, apaisée, en étant dans l'hystérie de manière permanente. Si vous voulez, moi j'ai un peu le sentiment qu'on cherche sur la question écologique à culpabiliser de manière permanente les Européens et les Français, alors que nous sommes peut-être les plus vertueux au monde.
Mais là, vous trouvez qu'on culpabilise les Français, par exemple, en ce moment, que le gouvernement culpabilise les Français ?
Je trouve qu'on a tendance, si vous voulez, à être de manière permanente dans une écologie punitive qui vise à culpabiliser les Français, alors que nous avons peut-être l'économie la plus
mais
propre
vous pensez à quoi
au monde.
Qu'est-ce qui est punitif aujourd'hui
Toutes les mesures qui sont prises en matière écologique, qui consistent à aller taxer de manière permanente les gens qui prennent leur voiture, alors qu'en même temps, on laisse les supertankers traverser la planète.
Mais la circulation différenciée, Jordan Bardella, qui a été mise en place, est-ce que vous estimez que c'est une manière de faire de la politique et, d'être punitif
Oui, parce qu'on pénalise toujours les mêmes. On pénalise les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et moi, je veux bien qu'on interdise aux Parisiens et aux Franciliens de prendre leur voiture. Mais à ce moment-là, qu'on fasse des efforts pour rénover les transports en commun. Quand vous prenez la ligne 13 à 18h et que la ligne 13 est bondée, que vous avez des problèmes d'insécurité quand vous rentrez tard dans les transports, qui fait parfois près de 38 degrés dans les transports, comme c'était le cas cette semaine en Ile-de-France, eh bien, nos compatriotes n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture.
Je dis juste,
arrêtons... De vouloir criminaliser de manière permanente les Français et les automobilistes. Soyons très clairs. On a aujourd'hui un air à Paris qui est plus respirable qu'il ne l'était dans les années 70. On vit aujourd'hui plus longtemps et mieux qu'on ne vivait il y a quelques années. On a aujourd'hui deux fois plus de forêts qu'on en avait il y a deux siècles. On voit aujourd'hui un retour de la faune sauvage partout
donc
sur le territoire.
Donc vous dites que ça va pas si mal, on en raconte
non
trop.
Non mais je dis juste, arrêtons toujours de dramatiser, d'être dans un scénario catastrophique. On a un défi face à nous qui est le défi environnemental, dont j'ai dit pendant la campagne qu'avec le défi migratoire, avec le défi de la démographie, c'était peut-être l'un des défis majeurs du 21e siècle. Il faut être capable de regarder ce problème de manière sereine.
Vous nous dites que l'air est plus respirable à Paris
qu'il ne l'était dans les années 70.
La piétonisation des quais,
tout dit
que visiblement au contraire il y a des problèmes d'asthme même dans les écoles et pour les enfants.
Personne ne vous a dit le contraire. Il faut juste regarder la situation avec objectivité, voir que nous avons un défi qui est face à nous, mais qu'on arrête, si vous voulez, de criminaliser les Français qui aujourd'hui vivent dans un pays qui est peut-être l'un des plus vertueux au monde. Oui, il y a un défi majeur face à nous qui est celui de l'environnement, qui est celui de la transition énergétique.
Mais on vous sent relativiser cette urgence. Quand Nicolas Hulot dit « nous sommes en guerre », quand Nicolas Hulot dit ce matin « nous sommes en guerre », est-ce que vous trouvez que c'est exagéré ?
Mais qu'a dit M. Hulot lorsqu'il a quitté le gouvernement ? Moi, lorsque Nicolas Hulot... Moi, je m'intéresse davantage, si vous voulez, aux actes qu'aux paroles. Et lorsque Nicolas Hulot a quitté le gouvernement d'Emmanuel Macron, il a dit « ce gouvernement ne fera strictement rien pour résoudre les problèmes climatiques et les problèmes environnementaux tant qu'il ne remettra pas en cause le modèle ultralibéral qui est le sien ». Ce sont les mots de Nicolas Hulot, c'est ce que nous disons depuis un certain nombre d'années. Et tant qu'on continuera, si vous voulez, d'aller fabriquer à l'autre bout du monde des produits que nous pourrions fabriquer à côté de chez nous, eh bien, effectivement, on continuera à polluer et on continuera à vouloir demander des efforts toujours aux mêmes, à savoir à nos compatriotes qui, dans beaucoup de cas, notamment dans les territoires ruraux, là-bas où il n'y a pas de transport en commun, où on ferme des services
mais
publics, où on a effectivement
ou pas
besoin. Mais bien sûr, faisons des efforts. Faisons
chacun au niveau individuel.
Mais bien sûr, faisons le localisme. Je vous donne un exemple très, très clair. Aujourd'hui, dans la restauration publique, 75% du bœuf, il est d'origine importée. Emmanuel Macron vient d'aller signer le Mercosur, qui est le traité de libre-échange avec un certain nombre de pays qui participent du Mercosur, dont le Brésil, qui va entraîner l'arrivée massive de 100 000 tonnes de viande sur le continent. Pourquoi est-ce qu'on fait venir de la viande du bout du monde ? On met en concurrence déloyale nos producteurs bovins, nos agriculteurs, quand on pourrait aller chercher des produits auprès de nos agriculteurs français. Enfin, je veux dire, faisons le localisme. faisons cette révolution de la proximité. Mais je pense que,
est-ce que ça empêche
l'un
des
principaux efforts que nous pouvons faire est de réformer ce modèle économique qui est basé sur le libre-échange total et de faire cette
est-ce
révolution de la
proximité. Est-ce que vous estimez, par exemple, qu'on culpabilise, criminalise les Français, c'est votre mot, en renforçant le contrôle technique pour les véhicules diesel à partir du 1er juillet, par exemple ?
Mais qui a demandé aux Français d'acheter du diesel ? Ce ne sont pas les gouvernements qui, il y a 10, 15, 20 ans, ont demandé à l'ensemble des Français d'acheter du diesel. Aujourd'hui, on leur explique qu'il faut acheter des voitures électriques. Mais je crois que le tout électrique n'est pas non plus la solution. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas de filière batterie en France. Se pose la question du caractère renouvelable des batteries. Que va-t-on faire des batteries dans 20, 30 ans? Où est-ce que nous allons pouvoir les recycler? Nous sommes dépendants de la Chine, dont je vous rappelle que la batterie nécessite un taux de métaux rares qui est très important, qui est extrait dans des terres rares en Chine, où nous avons là-bas des villages du cancer. Donc je ne crois pas que ce soit la solution. On a mis beaucoup de moyens ces dernières années dans l'hydrogène. Je pense qu'il faut aller au bout. Le gouvernement Alexis a un peu reculé sur le sujet. Je pense que c'est une des pistes sur laquelle il faut travailler. Et puis pardon, nous avons également la France, le deuxième espace maritime au monde. S'il y a bien un domaine énergétique dans lequel nous pourrions investir, c'est celui de l'énergie maritime.
Autre point très précis, on parlait tout à l'heure de Paris. Est-ce que la piétonnisation des quais, des voies sur berge, c'est une bonne idée finalement pour l'environnement ?
Mais moi, ce que je vois, c'est que cela crée des embouteillages terribles. Aller prendre votre véhicule pour circuler sur les quais à Rivoli un soir à 18h, c'est un enfer.
Donc vous étiez pire.
Non mais, si vous voulez, dans cette ville, vous ne pouvez plus vous déplacer. Vous ne pouvez plus prendre votre voiture, vous ne pouvez plus prendre les transports en commun, les deux étant bondés. Et donc, en réalité, les mesures qui sont prises par Anne Hidalgo relèvent de l'écologie punitive. Et ça consiste, effectivement, je le dis et je le redis, à culpabiliser toujours les mêmes.
Mais concrètement, quand on vous entend, on se dit, bon, bah, finalement, oui, il y a des mesures à prendre, mais ce n'est pas si urgent. Il y a d'autres urgences que celle-là, même si les Français, on l'a vu aussi dans les urnes à l'occasion des européennes, ont manifesté leurs préoccupations pour l'environnement. Vous dites, par exemple, il y a un espace maritime important à exploiter. Concernant l'éolien, dans les propositions de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle de 2017, il y avait une petite dizaine de propositions sur les questions d'environnement sur 144 engagements. Et parmi ces propositions, développer les filières françaises des énergies renouvelables, tout en décrétant un moratoire immédiat sur l'éolien. Alors, on ne comprend pas. On se dit, voilà, on a le maritime,
Monsieur Sportus,
on a...
L'éolien, a priori, ce n'est pas enterré sous l'eau.
On peut avoir de l'énergie renouvelable.
Oui, on peut avoir. Ce système
mais,
a démontré...
Non, mais dites-nous, sur l'éolien, pourquoi vous êtes si contre l'éolien ?
Parce que l'éolien, déjà, l'efficacité énergétique de l'éolien n'est pas prouvée. Une grande partie du temps d'activité de l'éolien relève de l'énergie à vide. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de vent, on perd de l'énergie. Et lorsqu'il y a trop de vent, l'énergie ne se stocke pas. Donc on perd aussi de l'argent. Et on est obligé de brader cette énergie à l'étranger à bas coût. Je crois que c'est un drame pour l'environnement, pour le paysage d'abord. Et je crois aussi que c'est un drame pour les populations qui habitent aux alentours. Moi, je suis allé pendant la campagne, notamment en Bretagne, visiter des chantiers d'éoliens. Et les habitations à côté ont perdu 20 à 30% de leur valeur. Parce que lorsque vous avez un espèce de gros machin qui fait un bruit insupportable, eh bien, vous ne pouvez plus vendre votre maison. Et je crois que ça a des conséquences aussi dramatiques sur la vie, et notamment la vie animale. On a vu un certain nombre d'agriculteurs se plaindre de dérèglements que pouvaient entraîner les éoliens sur la vie de leurs troupeaux, sur la vie des vaches, par exemple. C'est vos confrères de France Télévisions qui ont illustré parfaitement ce problème. Donc je pense que l'éolien n'est pas la solution. Encore une fois, je vous dis, on a mis beaucoup d'argent dans l'hydrogène. Je pense qu'on pourrait évidemment poursuivre les investissements.
Pour bien comprendre votre position, Jordan Bardella, si vous étiez président au G20, comme Donald Trump, est-ce que vous auriez vous aussi dit non, les accords de Paris, moi je ne suis pas là pour les soutenir. Il y a eu un accord pour soutenir le climat, rappeler l'importance des accords de Paris. Il s'est fait à 19 autour d'Emmanuel Macron, sans le président américain.
Mais nous on avait... vous pouvez pas nous faire ce procès. Nous, on avait émis réserves.
On vous pose la question.
Ouais, on avait émis des réserves, nous, sur la signature de l'accord de Paris, parce que les États-Unis s'en étaient retirés. Et à partir du moment où vous avez l'un des principaux pollueurs de la planète qui s'en retire, alors l'accord n'a plus de sens.
Vous avez eu des réserves avant même que les États-Unis se retirent. Dès l'accord de Paris en 2015, vous étiez hostile à cet accord de Paris.
Parce que les Américains avaient émis des réserves sur l'accord.
Pas à ce moment-là, Jordan Bardella.
Vous me demandez ma position, je vous la donne.
Vous n'êtes pas mieux que moi.
Vous n'êtes pas dans l'accusation subliminale,
mais je vous écoute.
Vous me demandez ma position, je vous la donne. À partir du moment où les États-Unis émettent des réserves sur l'accord, il est évident que cet accord n'a plus de sens à partir du moment où le principal pollueur s'en retire.
Oui, mais à l'inverse, vous pourriez déplorer que Donald Trump ait cette attitude et dire que vous soutenez et que vous saluez l'attitude d'Emmanuel Macron qui a permis de rallier 19 pays.
Ce G20, il est assez symptomatique. Ce G20, qui s'est tenu au Japon est assez symptomatique, je trouve, de la fracture idéologique qui aujourd'hui sépare les grandes puissances. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les grandes puissances qui, dans la mondialisation, choisissent de faire du protectionnisme. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, je pense au Brésil, qui décident de privilégier leurs intérêts,
tous les autres
qui privilégient des politiques protectionnistes. Et vous avez de l'autre des dirigeants politiques comme Emmanuel Macron qui participent d'un vieux monde, qui considèrent que l'avenir est encore au libre-échange total, à la suppression des frontières, à la dérégulation totale, qui voient nos pays comme des salles de marché et qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire, que partout dans le monde, les peuples sont en train de réaffirmer leur identité et surtout leur désir de protection. Cette protection est nationale et je crois que pour faire cette transition énergétique, on aura aussi besoin d'une frontière, à commencer par celle du localisme. Moi, je veux une société qui pose des limites et la première de ces limites serait d'arrêter effectivement cette folle politique de libre-échange et des traités qui sont négociés avec le monde entier et qui relèvent d'un déménagement du monde.
En cas de pollution excessive et massive, on n'a pas entendu de mesures concrètes et immédiates à prendre. Laquelle prendriez-vous ?
Mais je vous l'ai donné. Il faut arrêter de voir la politique comme un... je pense que la politique, c'est avant tout une affaire de vision. Et sur une question aussi majeure que celle de la transition énergétique, de la question environnementale, il faut avoir une vision de long terme. Il ne faut pas avoir une vision de 2, 3 mois, de 4, 5 ans. Il faut avoir une vision de 10, 15, 20 ans. Et c'est là-dessus que je préfère effectivement notre pays.
On parlait de Trump. Vous souhaitez sa réélection ? Vous dites qu'il se sentir plutôt bien ?
Je dis que lorsque Donald Trump a été élu, on nous annonçait la catastrophe. Or, je suis assez objectif sur Donald Trump et je constate que les résultats économiques sont extrêmement enthousiasmants. Les États-Unis créent tellement d'emplois qu'il n'y a même plus de main-d'œuvre pour les occuper. Je note que la fiscalité a massivement baissé sur les ménages, sur les entreprises et que Trump a été élu sur ce slogan qui est l'Amérique d'abord. Voilà. Et il a redonné une forme de fierté au peuple américain.
Vous diriez que ça peut être un modèle politique ?
Non, mais mes modèles sont en France. Je n'ai pas besoin de m'inspirer de tel ou tel modèle. Je dis juste que les États-Unis... vous savez, quand Trump a été élu, on nous annonçait quasiment la guerre nucléaire avec la Corée du Nord, par exemple. Or, on a vu ce matin que Trump s'est avéré être un fin négociateur.
Oui, alors avec l'Iran, on n'est pas très loin non plus.
Mais d'accord, mais je regarde...
On est d'accord, mais quand même, c'est pas grave.
Non, mais d'accord, mais il faut faire du cas par cas, il faut être assez objectif. Moi, je ne juge pas Donald Trump à ses tweets, je le juge à sa politique. Et ce que je regarde, c'est que effectivement, on va vers un apaisement avec la Corée du Nord, ça va dans le bon sens. On va vers l'éradication quasiment totale aujourd'hui de Daesh en Syrie et en Irak, et ça va encore
c'est
une fois
un grand
dans
président
le bon sens.
Américain. Si on vous écoute, c'est le plus grand président américain
depuis
bien longtemps.
Je considère qu'il a redonné une forme de fierté au peuple américain, et les États-Unis réussissent dans la mondialisation.
Contrairement à Barack Obama, par exemple
Les États-Unis réussissent parce qu'ils sont aujourd'hui fiers d'être américains. La Russie réussit dans la mondialisation parce que son peuple est fier d'être russe. Et je pense que cette fierté nationale, nous pourrions effectivement nous en inspirer plutôt que dans la culpabilisation permanente de notre peuple.
C'est un partenaire fiable ?
Mais c'est un partenaire indispensable. Les États-Unis sont la première puissance économique. Et moi, je crois dans un monde multipolaire. Mais je ne crois pas dans ce monde du tout pareil. Je pense que nous avons parfois des intérêts divergents, notamment avec un certain nombre d'autres pays européens. Et pendant que M. Macron se faisait au G20 l'ayatollah du libre-échange total et de ce modèle libéral et mondialisé, eh bien Donald Trump enchaînait les rencontres bilatérales avec les Indiens, avec les Japonais, et il négociait d'intérêt à intérêt entre des grandes puissance de la mondialisation. L'Union européenne, je l'ai dit pendant la campagne, organise l'impuissance collective, est en train de nous faire rater toutes les révolutions technologiques.
Vous dites que Donald Trump a redonné de la fierté aux Américains. Ce n'était pas le cas sous son prédécesseur.
Je ne sonde pas les cœurs et les reins. Je regarde avec objectivité la situation du pays.
Donc,
et si effectivement les démocrates ont été élus au détriment des républicains, c'est que les Américains ont souhaité un changement de politique. Donc moi, je regarde avec objectivité. Et plutôt que de soutenir la continuité avec Hillary Clinton de celle de Barack Obama, on a regardé la situation avec objectivité et on s'est dit le mieux pour les intérêts de la France, c'est effectivement qu'Hillary Clinton soit battue parce qu'il portait une vision beaucoup moins belliqueuse et qu'il était notamment contre le traité de France.
Vous aimeriez le rencontrer, le président américain, vous, Jean-Yves Mandela ? Est-ce que c'est un souhait que vous pourriez émettre si jamais il venait en France ?
Je ne sais pas.
Et est-ce que vous avez rencontré son émissaire ?
Vous me prenez sur le fait, je ne sais pas.
D'accord, c'est une
réponse. Mais peut-être en tant que député européen, nous aurons l'occasion de rencontrer un certain nombre, effectivement, de parlementaires américains.
Est-ce que vous avez rencontré Steve Bannon, qui est l'un de ses
Qui était directeur de campagne de Trump, je l'ai rencontré une fois en marge d'un meeting que nous tenions avec nos alliés européens à Bruxelles.
Alors, question, puisqu'on est sur le G20, est-ce que vous estimez, en effet, vous parliez du Mercosur, l'accord qui a été conclu donc entre des pays d'Amérique latine et l'Europe, oui. Est-ce que vous estimez vraiment que, et pourquoi, cet accord est malveillant pour la France?
Parce que, si vous voulez, je considère que cet accord de libre-échange, comme les nombreux qu'a signé l'Union européenne, hein, comme les quasiment une grande partie des 116 accords de libre-échange que négocie l'Union européenne, c'est une absurdité écologique et économique. Moi, j'ai entendu l'inquiétude de nombreux agriculteurs, des agriculteurs français, à qui on demande d'être toujours plus respectueux, toujours plus rigoureux et toujours plus exigeants vis-à-vis des normes qui sont imposées par la France et par l'Union européenne. Agriculteurs à qui on interdit le recours à un certain nombre de produits, qu'on maintient à un niveau de qualification et de normes qui est assez élevé, et en même temps on va autoriser l'importation sur notre sol d'un certain nombre de produits qui ne respectent pas nos normes.
Mais on va pouvoir aussi exporter.
Vous voyez, dans le Mercosur.
Non, mais attendez. Exporter, Jordan Bardella.
Oui, l'Allemagne va pouvoir exporter ses voitures pendant que nous, les agriculteurs français, serons les grands perdants, comme dans tous les accords de libre-échange. Vous savez, dans le Mercosur est autorisé par exemple le soja aux OGM. Sont autorisées par exemple les hormones de croissance. Sont autorisées l'utilisation d'un certain nombre d'antibiotiques dans la viande, dans l'élevage du poisson. Eh bien, tous ces produits vont arriver sur le sol européen. Et on autorise là-bas des produits qui ont des conséquences dramatiques sur la santé, sur la vie humaine, sur la vie des écosystèmes, quand on les interdit à nos agriculteurs. Donc, ce traité, comme nous avions mis en garde sur le traité CETA, moi j'avais dit pendant la campagne que le traité CETA allait faire entrer un certain nombre de produits nocifs pour la santé des Européens. On nous avait accusés de fake news. Or, la Commission européenne a admis il y a quelques jours que le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, avait fait rentrer 40 substances chimiques interdites au sein de l'Union européenne. Je pense qu'il faut s'ouvrir lorsque nous y avons intérêt. Je considère que l'agriculture doit être aujourd'hui sortie des traités de libre-échange et qu'il doit exister, comme il en existe une en matière de culture, hein, ce qu'on sait faire pour les élites, il faut savoir le faire aussi pour nos travailleurs et nos agriculteurs, une exception agriculturelle qui sorte totalement l'agriculture de nos accords de libre-échange à l'heure où nous avons un agriculteur sur deux qui se suicide tous les deux jours, à l'heure où nous avons deux agriculteurs sur trois qui vivent avec moins de 300 euros par mois, permettez-moi de le rappeler.
Un mot sur le glyphosate. Oui. Il faut l'interdire parce que c'est un danger pour l'environnement, ou il faut le garder parce que les agriculteurs en ont besoin?
Je pense qu'il faut s'en passer, mais encore une fois, je n'ai pas une vision idéologique, j'ai une vision très pragmatique. Et je dis que nous devons pouvoir substituer au glyphosate un autre produit. Or, nous n'avons pas encore cette alternative.
Donc, tant qu'il n'y a pas de substitution, il faut le garder.
On a soutenu effectivement le délai supplémentaire qui est accordé par l'Union européenne, mais il faut aujourd'hui mettre des moyens pour pouvoir s'en passer. Et qu'on interdise le glyphosate, très bien, sous un certain nombre de motifs, mais qu'on arrête d'autoriser des produits et l'importation de produits qui utilisent le glyphosate, il faut avoir une vraie vision cohérente. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut tourner le dos au libre-échange et se tourner vers le protectionnisme.
Alors justement, voilà. Ça sera l'un de vos combats, on imagine, au Parlement européen.
Et je pense qu'il faut se tourner vers le patriotisme économique et qu'il faut qu'on soit capable aujourd'hui, notamment dans la commande publique, ça permet de l'impulser, de donner la priorité à nos entreprises, à nos TPE-PME et à nos agriculteurs.
Jordan Bardella, il y a aujourd'hui une réunion européenne pour désigner les commissaires européens. Et il y a aussi l'affaire du Brexit et éventuellement la nomination de Boris Johnson comme Premier ministre britannique. Est-ce que vous voyez en Boris Johnson un allié potentiel pour vous?
Ah mais moi je ne vois d'ennemi nulle part. Voilà, si ça peut vous rassurer.
Certains disent que c'est un Trump bis.
Je suis respectueux. Non, mais je suis respectueux de la démocratie. Et je considère aujourd'hui que M. Johnson est peut-être celui qui va faire respecter la volonté du peuple britannique. Je considère qu'en démocratie, le seul juge est le peuple. Que le peuple britannique a voté en 2016, maintenant, il y a 3 ans, pour quitter l'Union européenne, qu'il considérait comme une prison, comme un certain nombre de normes carcérales qui lui étaient imposées. Et il faut aujourd'hui que cet accord soit respecté. Moi, je dis, vaut mieux un good deal qu'un no deal. Et on peut trouver un certain nombre d'accords. Mais dans la vision d'Europe des nations que je défends,
ce que dit Boris Johnson,
dans la vision d'Europe des nations que nous défendons et que nous avons portée et qui arrivait en tête de ces élections européennes, alors le Royaume-Uni aura toute sa place. Et nous, on défend effectivement une vision multipolaire d'échange entre les nations, y compris au sein de l'Union européenne.
En attendant, pour arriver à un good deal, vous dites l'Europe doit assouplir sa position, ses exigences vis-à-vis du Royaume-Uni.
Je dis qu'on a, absolument. Enfin, s'il y a bien un domaine dans lequel l'Union européenne a su défendre ses intérêts, c'est bien celui du Brexit. C'est-à-dire, on est incapable de les défendre dans le cadre des accords de libre-échange, mais on est bien capable de le défendre.
Non, mais elle a raison ou pas?
Je pense qu'on a voulu faire du Royaume-Uni un exemple. Et on a voulu montrer aux autres pays européens qui voyaient monter en leur sein des pays qui contestaient l'Union européenne.
C'est bien d'être ferme ou il faut être plus souple?
Pardon, je comprends pas. Souverainiste. Qui avait peut-être cette volonté de rompre avec l'Union européenne. Et on a voulu en faire un exemple, en disant, voyez, ce n'est pas possible de sortir de l'Union européenne. Et quand j'ai entendu, moi, les mots d'un certain nombre de dirigeants européens, à commencer par M. Tusk, le président du Conseil, qui a dit les Britanniques devront aller en enfer s'ils choisissent le Brexit, eh bien je me dis que l'Union européenne a une conception bien étrange de la démocratie.
Jordan Bardella, Benjamin a rappelé.
Il faut juste, pardon, excusez-moi, pour vous répondre.
Mais c'est un jeu de questions.
Ouais, mais juste pour vous répondre, excusez-moi.
Faut qu'on avance.
Je pense que la France doit surtout être capable de défendre ses intérêts. Et moi, pendant cette campagne, j'ai rencontré notamment les pêcheurs en Bretagne qui ont été totalement abandonnés dans les négociations. Il faut qu'Emmanuel Macron soit capable, dans le cadre du Brexit, de défendre les intérêts.
Emmanuel Macron est à Bruxelles en fin de journée pour défendre les intérêts de la France, puisque l'Union européenne, Benjamin le disait, va désigner ses futurs dirigeants, président de la Commission européenne, du Parlement, toute une série de postes comme ça à désigner. Est-ce que par principe, vous pouvez déjà nous dire que vous serez forcément contre les dirigeants qui vont être mis en place, quel que soit leur parti, qu'ils viennent de la droite, de la gauche, des libéraux ?
Et si ce porte-candidat candidats à la présidence, par exemple, de la Commission européenne ou du Parlement européen qui ne partagent pas nos orientations, évidemment que nous n'allons pas le soutenir.
Sans même attendre de voir ce qu'on va dire,
proposer à faire. Le Parlement européen va se réunir pour la première fois cette semaine.
Oui.
Moi, j'aurai l'occasion d'aller à Strasbourg lundi où nous allons réunir notre groupe, le groupe Identité et Démocratie que nous avons constitué avec l'ensemble de nos alliés. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les souverainistes que nous représentons vont avoir un impact majeur sur la politique de l'Union européenne.
Mais vous aurez un
et nous allons faire entendre la voix des peuples et l'intérêt des nations.
Vous aurez un et des candidats pour ces différents postes.
Ça fera partie des discussions que nous aurons avec notre groupe.
Mais aujourd'hui, vous pouvez nous dire
semaine.
Pour la Commission, on veut un tel, pour la présidence du Parlement.
Il se trouve que aujourd'hui, le Parlement européen ne peut plus faire comme si nous n'existions pas. Ce qui a été fait par le passé.
Sauf que vous nous dites que vous allez être là pour vous opposer uniquement.
Il va y avoir des discussions sur la présidence d'un certain nombre de commissions. On a beaucoup parlé de la commission des affaires juridiques, la commission agriculture. Maintenant, permettez-moi de ne pas m'avancer. Nous nous réunirons demain avec notre groupe, avec nos délégations, et nous aurons effectivement l'occasion d'en discuter.
On revient quand même sur votre groupe. Alors certains disent que vous faites partie des populistes. Est-ce que pour vous, populiste, c'est un gros mot ou pas, Jordan Bardella ? Est-ce que vous considérez que vous êtes populiste ?
Absolument pas. Moi, j'ai pas peur du politiquement correct. Je ne tremble pas devant les élites qui essaient de nous culpabiliser à chaque fois qu'on a un mot qui ne leur convient pas. Et si être populiste, c'est défendre le peuple, alors oui, j'assume cette terminologie.
Et pour revenir aussi à Boris Johnson, on en parlait à l'instant, qui a traité les Français, je cite, un cycle de cons. Est-ce que vous trouvez aussi, vous n'êtes pas inquiet de voir qu'un Premier ministre qui peut avoir un vocabulaire parfois aussi belliqueux ne peut pas être gênant dans des relations bilatérales ?
Vous pourriez me poser la même question avec Donald Trump. Je préfère juger ces personnalités et ces dirigeants politiques qui ont été choisis de manière démocratique à leurs actes, plutôt qu'à leurs tweets ou qu'à leurs mots.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur Bardella, bonjour, je suis Marine Tondelier, je suis élue d'opposition à Hénin-Beaumont, où le maire Steve Briouat utilise les procédures judiciaires à répétition pour intimider psychologiquement mais aussi financièrement les élus d'opposition, les journalistes locaux ou encore certains employés municipaux. Ces procédures, elles sont là pour faire taire celles et ceux qui les dérangent et elles sont d'autant plus choquantes que souvent elles sont financées par le contribuable municipal. Vous qui prétendez être un parti du peuple, trouvez-vous normal de lui faire financer votre stratégie de harcèlement judiciaire ?
Jordan Bardella.
Votre question n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse et elle n'est pas à la hauteur de cette émission. Parce qu'il faut peut-être rappeler ce que vous n'avez pas fait, que je considère que vous auriez dû faire, parce que c'est votre travail de journaliste de rappeler qui est Madame Tondelier. Madame Tondelier s'est présentée sous son nom aux élections législatives. Elle a fait 5% sur la ville d'Hénin-Beaumont. Steve Briouat, qui est le maire d'Hénin-Beaumont Rassemblement National, a fait 55%. Madame Tondelier est actuellement mise en examen pour avoir diffamé des fonctionnaires municipaux. Le président de son groupe au conseil municipal, M. Binest, vient d'être renvoyé devant la justice par le procureur pour infraction au marché public lorsqu'il était maire. Son bras droit, je continue, au conseil municipal, M. Filipovic vient d'être condamné il y a quelques jours à 6 000 € de manière définitive pour des propos homophobes à l'égard de Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont. Alors je pense que vous auriez peut-être dû rappeler qui
c'est votre réponse, c'est une question avant la discussion.
Mais Madame Tondelier est peu appréciée par les électeurs, mais très appréciée par les journalistes. Maintenant sur les dépenses d'avocats, je vais vous répondre sur le fond. Les dépenses d'avocats utilisées par la ville ont en l'occurrence baissé comme absolument toutes les dépenses de fonctionnement de la ville. Les frais d'avocats qui sont généralement utilisés dans des cas qui opposent les adversaires politiques représentent 0,1% de la ville. Et lorsque nous faisons condamner un certain nombre de personnalités qui ont des propos diffamants à l'encontre de la ville, je pense à vos confrères de La Voix du Nord, journalistes de La Voix du Nord, que nous les faisons condamner par la justice française, les 3 000 € qu'ils payent à la ville, ce sont 3 000 € qui vont aujourd'hui dans les caisses de la ville. Alors si vous voulez, je trouve que ce procès, il n'est pas juste. Et surtout, il cherche peut-être à cacher la vérité de notre bilan. Parce que Steve Briouat, il a baissé les impôts locaux à 4 reprises dans la ville.
Parce qu'on arrive au terme de cette
nous avons
partie.
Fait près de 55% dans la ville. Des Nabons, permettez-moi de terminer.
Vous avez répondu. Non,
il
mais
a
vous avez
mis
répondu.
Fin
à la répondu. Situation d'emprunt toxique qui était celle de la ville infligée par la précédente majorité de monsieur d'Allongeville qui était totalement corrompu. Et il gère Bardella, cette ville en bon père de famille et sera
Marine Tondelier.
Sans problème,
toute question
je le crois,
est légitime, toute réponse
le
l'est, vous l'avez fait, c'est le jeu de la question en plus et vous l'avez répondu. On se retourne dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury, à tout de suite.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le député européen vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Gendre de TF1 LCI, Alexis Brézé du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Oui, question qui concerne les questions des migrants et de l'Italie, l'affaire du Sea-Watch, ce navire qui a forcé le blocus mis en place par Salvini, Matteo Salvini. Une quarantaine de migrants qui finalement ont débarqué. Et la France qui dit, sur ces 40 migrants, on est prêt à en prendre une dizaine. Est-ce que vous dites, oui, il faut prendre une dizaine de migrants, après tout, c'est pas grand-chose. Vous dites, non, pas question, on n'en prend aucun.
Je dis que accepter 20 migrants, c'est continuer d'envoyer un signal dramatique à tous ceux qui, de l'autre côté de la Méditerranée, s'apprêtent à venir. Je crois qu'il est temps de siffler la fin de la récréation et de mettre fin à ce jeu trouble d'un certain nombre d'ONG, de ce je m'en foutisme total à l'égard des lois qui, au nom d'un caprice idéologique, font de la politique sur le dos des migrants. Ces ONG, dont fait partie Sea-Watch d'ailleurs, vont à proximité des côtes libyennes, parfois à peine 20 km, pour aller récupérer des embarcations de migrants transmises par des passeurs pour ensuite les ramener sur les côtes européennes et mettre les nations européennes devant le fait accompli. Alors moi, cette dictature de l'émotion...
Des passeurs.
Non, mais si vous voulez, cette dictature de l'émotion qui consiste à arriver avec des bateaux de migrants devant les nations européennes en disant « Mais si vous ne voulez pas nous accepter, c'est que vous êtes des criminels et que vous nous laissez mourir en mer », eh bien, cette politique, je la trouve purement scandaleuse et je crois qu'il est temps de siffler la fin de la récréation.
Est-ce que c'est pas un peu déplacé quand on vous entend? On se dit c'est quand même des... En jeu, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Est-ce que récréation, c'est un mot idoine
Je crois effectivement que le jeu trouble d'un certain nombre d'ONG qui participent d'un trafic d'êtres humains n'a que trop duré. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics sont totalement impuissants. Ils sont totalement impuissants parce qu'ils ont effondré les moyens qu'ils donnaient aux nations, à nos nations, à la lutte contre l'immigration clandestine. Et que tant que nous continuerons d'avoir des pays qui sont attractifs, tant que nous continuerons d'offrir, par exemple, les soins gratuits à l'ensemble des personnes qui viennent de manière clandestine dans notre pays, ça coûte 1 milliard d'euros par an,
Jordan
à prendre en charge les mineurs isolés pour un coût de 2 milliards d'euros par an, c'est-à-dire des clandestins qui sont passés pour des mineurs et qui ne sont pas mineurs, des populations continueront de tenter l'aventure.
Vous dites non à l'accueil de ces migrants, donc concrètement, c'est-à-dire quoi? On laisse l'Italie se dépêtrer avec les 40 migrants qui sont sur ses côtes?
Je dis que ces bateaux doivent être raccompagnés vers leur port de départ. Et je pense que cette fermeté est une humanité. Et que ceux qui se disent humanistes sont en fait les responsables des drames de la Méditerranée. Parce que ce sont eux qui incitent de manière permanente ces populations à quitter leurs terres pour venir tenter l'aventure et traverser la Méditerranée et rejoindre les côtes européennes. L'Australie l'a fait il y a quelques années avec un principe très clair en disant « ne venez pas chez nous, vous n'aurez rien », en faisant des campagnes de publicité dans les pays de départ et en disant à ces populations « ne venez pas chez nous, nous reconduirons les bateaux de manière systématique ». Et cette politique, elle sauve des vies. Parce que Matteo Salvini, en faisant baisser et diminuer de 95% le nombre de débarquements sur les côtes italiennes, il a permis la réduction de 50%
la vie sauve,
du nombre de morts dans la Méditerranée.
Ces migrants,
je suis assez factuel, je regarde les chiffres qui sont celles des demandes d'asile et je regarde que 90% des migrants qui demandent l'asile ne sont pas des migrants qui fuient la guerre. Ce sont des migrants économiques qui ne viennent pas de pays en guerre. Emmanuel Macron le dit lui-même aujourd'hui et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, avoue lui-même que ces ONG, venant ainsi valider ce que nous disons depuis un certain nombre d'années, font de la politique sur le dos des migrants.
La jeune femme qui pilote, qui est la capitaine du bateau, a été arrêtée, mise en prison, je crois. Vous dites qu'il faut qu'elle passe devant la justice et qu'elle soit condamnée?
Je dis qu'il y a désormais une loi, effectivement, en Italie, qui la conduit devant les tribunaux. Mais est-ce que cette dame, comme toutes les belles âmes, sont allés à Lampedusa? Est-ce qu'ils sont allés sur tous ces territoires?
Oui, là,
non, mais d'accord, mais est-ce qu'ils sont allés sonder les populations.
Elle est une
parce que moi, j'ai effectivement vu dans la presse italienne que 61% des Italiens ne souhaitaient pas accueillir ce bateau de migrants, de la même manière qu'ils ne souhaitaient pas accueillir l'Aquarius. Et toutes ces belles âmes qui incitent effectivement à l'accueil toujours plus massif de populations étrangères, sont-ils allés sonder les populations concernées, qui voient débarquer à côté de chez eux des dizaines de migrants, qui voient leurs services, leurs hôpitaux, leurs services, leurs infrastructures
saturées en France, dans certains villages. On le voit dans les faits, s'intègre et il n'y a pas d'hostilité de la population.
Ah bon ? C'est ce qui ressort. Vous voyez ça, moi, je vois, au contraire, un certain nombre de problèmes, un certain nombre de tensions. Je suis allé pendant cette campagne en Guyane, à la frontière, l'une de nombreuses frontières françaises, à la frontière avec le Suriname. Et vous avez là-bas une ville frontière qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni. Il suffit juste pour les Surinamais de traverser la ville pour se retrouver en France et bénéficier des prestations accordées par l'État français. La ville est totalement submergée. Les infrastructures de santé de la ville sont totalement submergées. Les écoles sont totalement submergées. La police n'arrive plus à faire face aux problèmes de sécurité. Et effectivement, quand vous avez de nombreux clandestins qui, parfois, restent dans des villages, eh bien, ça pose des problèmes. Alors, ça pose des problèmes de vivre en paix, ça pose des problèmes de sécurité, et cela personne n'en parle. Et les belles âmes qui donnent des leçons sur l'accueil des migrants, et généralement n'en prennent jamais chez eux, hein, c'est toujours, l'accueil est toujours bon, toujours chez les autres, mais jamais chez soi, eh bien tout cela crée des tensions. Et je considère effectivement qu'il faut siffler la fin de la récréation, retrouver des frontières nationales, traiter l'asile
vous
dans les pays de départ et faire preuve de fermeté à l'égard des bateaux de migrants. Et je crois que cette fermeté est une forme
on
de
on revient sur l'actualité, une autre actualité de la semaine, Adrien Gimbre.
Avec un sujet qui a beaucoup fait réagir, la volonté d'une dizaine de femmes à Grenoble de se baigner en burkini dans une piscine de la ville. Est-ce que pour vous c'est de la provocation ou est-ce que pour vous c'est le signe d'une radicalisation sur place ?
Je considère que le burkini est le cheval de Troie de l'islamisme. Et que aujourd'hui, encore une fois, avec cette stratégie de la victimisation, on utilise ce genre de vêtements, ce genre de provocation pour accroître la percée du fondamentalisme islamiste dans notre pays. J'ai retrouvé une déclaration d'Al-Qaradawi, qui est l'inspirateur des frères musulmans, qui est l'inspirateur de la doctrine islamiste, qui inspire notamment les militantes pro-burkini qui se sont rendues dans la piscine de Grenoble, et qui a dit en 2002 « Avec vos lois, nous vous coloniserons. Avec nos lois, nous vous dominerons. » Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société française, ou d'ailleurs dans les services publics, un rapport parlementaire le révèle.
On va en parler.
Mais c'est quand même totalement un à l'islamisme. C'est et je constate que dans un certain nombre de pays, même des pays musulmans, comme au Maroc par exemple, on interdit le burkini, on fait preuve, comme c'est le cas par exemple en Tunisie, d'une fermeté la plus totale à l'égard du fondamentalisme islamiste, en fermant des mosquées radicales. Et je constate que nous sommes totalement
impuissants. On le fait pas alors qu'on a les moyens ou il faut se douter, islamiste. Il faut se doter de moyens juridiques supplémentaires pour interdire le burkini.
Il faut commencer par couper les vivres du fondamentalisme islamiste, parce que bien souvent ce type d'associations qui se sont rendues responsables des provocations à Grenoble en envoyant un certain nombre de militantes islamistes avec un burkini se baigner en entravant la loi bénéficient de subventions publiques. Donc je crois qu'il est temps de réaliser un grand audit national sur tous les financements qui sont accordés au fondamentalisme islamiste. C'est vrai au niveau local, c'est vrai dans un certain nombre de collectivités. Il faut également interdire les financements, notamment des mosquées, par des fonds étrangers, à commencer par des fonds saoudiens, des fonds qataris. Moi, vous savez que je suis élu en Seine-Saint-Denis, et on voit effectivement un certain nombre de mosquées, un certain nombre de lieux de culte. Ça a été vrai sur la mosquée de Saint-Denis, chez moi, qui a été ouverte il y a quelques mois, qui a été financée en grande partie par l'Arabie saoudite, qui prône une vision rigoriste, radicale de l'islamisme. Et l'idéologie de l'islamisme n'est forte que de nos faiblesses.
Sur le burkini, certains disent qu'ils veulent une loi. En même temps, il y a un risque d'anticonstitution. Est-ce que vous réclamez quand même du gouvernement qu'il tente
Non, c'est faux. Il y a un certain nombre d'arrêtés qui ont été pris, qui permettent justement. Le burkini, il est interdit aujourd'hui. Donc, à partir du moment où vous défiez nos lois, vous défiez nos valeurs de civilisation et vous défiez la République française, eh bien, il faut trouver face à vous une justice implacable.
C'est ce qu'a fait le maire de Grenoble, c'est-à-dire un arrêté anti-burkini. Vous
mais
êtes d'accord
bien sûr, mais à partir du moment où des élus prennent des arrêtés, peu importe leur bord politique, il faut évidemment les soutenir.
Alors, sur ce rapport, justement, vous évoquez un rapport de deux parlementaires de cette semaine sur les services publics gangrénés a priori par des islamistes, mais ils font aussi le constat d'une situation plutôt avec des cas marginaux. Hein. C'est aussi ce qu'a dit Éric Dierre, l'un des rapporteurs. Il dit que, bon, certes, il y a des phénomènes à endiguer. Est-ce que vous n'avez pas, vous, une vision un peu catastrophique?
Absolument pas, parce que moi, j'ai effectivement grandi dans un certain nombre de territoires où là-bas, c'est le fondamentalisme islamiste qui a pris le pouvoir. Voilà, à quelques mètres de chez moi, j'avais l'IUT de Paris 13, l'université de Paris 13 de Saint-Denis, où les autorités ont trouvé et où des professeurs ont mis en garde et ont alerté les pouvoirs publics sur l'existence d'un certain nombre de prières clandestines, sur le prosélytisme que réalisait un certain nombre d'étudiants islamistes à l'égard d'autres étudiants qui ne pratiquaient pas. J'ai vu dans tous ces bus de banlieue, à la RATP notamment, des chauffeurs refuser de conduire après une femme. Des chauffeurs qui refusait de laisser monter des femmes dans un bus parce qu'elles ne portaient pas la bonne tenue. Je pense à ce qui s'est déroulé, à l'incident qui s'est déroulé à Paris le mois dernier.
Vous savez,
donc aujourd'hui, il faut réaliser un grand audit national sur tous les postes occupés par les fichiers S dans l'administration. À partir du moment où vous avez un lien objectif avec le fondamentalisme islamiste, avec une idéologie qui nous a déclaré la guerre, eh bien, cela doit être un motif de mise à pied.
Fichier S, c'est avoir un lien objectif.
À partir du moment, il y a dans le code pénal l'article 411.4 qui est l'article d'intelligence avec l'ennemi et qui permet, lorsque vous avez un lien avec une idéologie qui menace clairement nos intérêts, et c'est le cas avec le fondamentalisme islamiste, de pouvoir effectivement subir un certain nombre de procédures de justice. Et en l'occurrence, je considère que dans la fonction publique, il est aujourd'hui temps de mettre à pied tous ceux qui, au sein de la fonction publique, ont un lien de près ou de loin avec le fondamentalisme islamiste.
Oui, mais ce que disent les auteurs du rapport, c'est que souvent, il y a de fichiers S, mais souvent, ils ne sont pas fichés S. Il y a des éléments de radicalisation qui, pour autant, ne sont pas des délits. Et alors là, légalement, l'administration est désarmée. Le droit ministériel ne permet pas de virer quelqu'un uniquement parce
Pardon, monsieur, mais il y a 20 000 fichiers S aujourd'hui pour radicalisation. Voilà.
Mais ils ne sont pas tous dans l'administration.
Non, mais d'accord, mais commençons par nous occuper de ces fichiers S, par expulser les fichiers S qui sont présentes sur notre sol et qui sont aujourd'hui étrangères dans notre pays. Renvoyons-les.
Mais votre chauffeur de bus, il est très probablement pas un fichier S. C'est pas que ça.
Moi, je ne crois pas. Voilà. Et à partir du moment où les autorités ont alerté depuis un certain nombre d'années, mais on a toujours l'impression avec ça qu'on découvre l'eau chaude. On a l'impression que du jour au lendemain, on découvre qu'il y a un problème avec le fondamentalisme islamiste. Je vous rappelle que ça fait des années que nous mettons en garde contre cela, que c'est une idéologie qui, encore une fois, nous a déclaré la guerre et avec laquelle il faut être évidemment le plus intraitable. Parce que parfois, l'islamisme s'exprime de manière guerrière, de manière violente, comme c'est le cas pendant les attentats, mais bien souvent, il s'agit d'une idéologie qui se diffuse. Et une idéologie, cette idéologie prospère en l'occurrence dans une France qui se renonce parfois à s'affirmer et qui dès le plus jeune âge et parfois dès l'école renonce à enseigner les fondamentaux, à être intraitable à l'égard des provocations qui sont faites. Moi je me souviens que dans des écoles de Seine-Saint-Denis, certains jeunes avaient refusé de chanter la Marseillaise faire une minute de silence des attentats de Charlie Hebdo.
On vous entend là-dessus. Est-ce qu'en même temps dans votre discours, on vous entend pas souvent dire que la majorité des musulmans de France ont un islam modéré?
Je n'ai jamais perdu une occasion de le dire. Il y a de nombreux compatriotes musulmans qui subissent ce fondamentalisme islamiste et qui, bien souvent, moi j'ai rencontré.
Donc ça reste une minorité.
J'ai rencontré, étant plus jeune, en Seine-Saint-Denis, beaucoup de nos compatriotes algériens, par exemple, expliquaient que ce qu'ils avaient fui d'Algérie, il y a maintenant 20 ans, ils le retrouvaient aujourd'hui dans leur quartier. Et le meilleur service qu'on peut rendre à nos compatriotes de confession musulmane, qui respectent nos lois, qui respectent nos valeurs, qui travaillent et qui travaillent dur dans notre pays, eh bien, c'est de mener la guerre au fondamentalisme
islamiste. Mais vous craignez pas la stigmatisation ?
J'ai pas peur de ça. Et je pense que la stigmatisation viendra de l'impuissance des pouvoirs publics à l'égard de cette idéologie.
Adrien Gindre.
Nicolas Sarkozy vient de publier un livre, Passion, dans lequel on retrouve certaines des thématiques que vous venez d'évoquer. Par exemple, sur l'islamisme, cette idée qu'il y aurait une décadence avancée de l'Europe et de l'Occident, une faiblesse face à ce fléau. Il y a également un passage sur les statistiques ethniques. Il revient sur l'épisode du PSG. On avait reproché au club de foot à ce moment-là de tenir un fichier dans lequel on classait les joueurs en fonction également de leur origine. Est-ce qu'il est devenu proche du Rassemblement National, Nicolas Sarkozy, ou est-ce que c'est vous qui êtes devenu sarkozyste?
Ah, c'est l'éternel débat. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il a toujours parlé comme le Rassemblement National pendant les campagnes et puis il a toujours gouverné comme les socialistes. Je lirai probablement son livre. Parce que je suis respectueux des institutions, je considère qu'un ancien président de la République a toujours une voix à apporter au débat. Maintenant, je ne suis pas dupe. Et pour avoir la vérité de ce qu'était le quinquennat de Nicolas Sarkozy, moi, j'invite à lire ou à relire le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple. Plutôt que passion, moi, je l'appellerais trahison, ce livre, parce que Nicolas Sarkozy, il a été au pouvoir. J'entends, moi, ses leçons sur l'immigration, l'islamisme, la décadence de l'Occident, tout ça, c'est du verbiage, mais c'est lui qui a fait entrer plus d'immigrés dans notre pays que n'en avait fait entrer Lionel Jospin. C'est lui qui a intégré les frères musulmans
de l'UIF en 2003 au Conseil
français du culte musulman.
Alexis Brézé.
C'est lui qui a effondré les effectifs de police. C'est lui qui a supprimé les renseignements territoriaux qui sont aujourd'hui essentiels dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Je ne suis pas dupe et les Français ne sont pas dupes.
Votre ami Thierry Mariani dit Bardella, il ressemble à Sarkozy.
Je ne sais pas. Vous l'invitez. Il parlait peut-être des débuts de combat politique de Nicolas Sarkozy, mais j'espère ne pas ressembler au Nicolas Sarkozy qui a présidé notre pays et qui a encore une fois, lorsqu'il a été élu, a dit en 2007, je ne trahirai pas, je ne décevrai pas, je ne mentirai pas. Il se trouve qu'il a fait les trois.
Alors dites-nous. Marion Maréchal, cette semaine, alors devait être invitée par le MEDEF à l'université d'été, puis finalement, eh bien, le MEDEF a renoncé à cette invitation. Comment jugez-vous ce revirement ? Est-ce que c'était en effet la place de Marion Maréchal plutôt que de représentant du Rassemblement National, par exemple ?
Je vais être très franc avec vous, je ne suis pas surpris de ce sectarisme de la part du MEDEF, qui, dans un acte courageux, a décidé de s'intéresser à la révolte populaire en
invitant les Gilets jaunes. Et vous n'êtes pas surpris qu'il ait invité elle plutôt que de vous inviter vous, par exemple ?
Je pense que c'est surtout ne pas avoir affaire au Rassemblement National. Ils se sont dit peut-être que là ils auraient pu trouver un compromis et peut-être effectivement se sont-ils rappelés que nous représentons un Français sur trois, 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen dans l'élection présidentielle. Mais moi, si vous voulez, je préfère dialoguer avec les petits et moyens patrons, avec les patrons des TPE-PME qui font face à un certain nombre de difficultés, la folie fiscale, la folie normative, qui voient effectivement leur production mise en concurrence avec des produits qui viennent
un mot de Marion Maréchal, un mot quand même de Marion Maréchal.
Donc je suis pas surpris de ce sectarisme. Okay.
Un mot de Marion Maréchal, depuis qu'elle fait plus de politique, on l'a jamais autant entendu. Vous en pensez quoi ?
Je pense qu'elle elle continue sur un terrain qui est un terrain noble, qui est celui des idées. Mais ne lui prêtez pas d'intention qu'elle n'a pas. Je sais que vous aimez ça, les journalistes. Je sais que ça fait parler.
C'est vous qui dites dans Valeurs Actuelles, nous n'avons pas entendu Marion Maréchal pour tenter cette union des droites. Donc quelque part, on a pas l'impression. Vous dites, nous n'avons pas attendu Marion Maréchal pour tenter l'union des droites.
Bien sûr.
Donc quelque part, c'est indispensable.
Mais parce qu'elle fait un constat juste sur l'état des Républicains et sur l'état de ce qui a pu être la droite française pendant longtemps. Mais on a déjà commencé à travailler. Nous, ça ne vous aurait pas échappé que cette alliance avec la droite populaire. Nous l'avons fait pendant les élections européennes.
Oui, mais elle va rencontrer carrément des élus républicains. Oui, elle va rencontrer des élus républicains. Marion Maréchal va rencontrer des élus républicains. C'était en cette semaine. Est-ce que c'était une bonne idée de sa part ? Est-ce que vous pensez que... Ou c'était à vous de l'organiser, ce déjeuner ?
Comment Monsieur Sportouf, vous savez que nous dialoguons, nous, avec des personnalités des républicains, que j'ai l'occasion de parler avec des gens qui sont à l'air de déjeuner, de dîner avec des gens qui sont membres du Parti des Républicains. Marine Le Pen a l'occasion de dîner, de déjeuner régulièrement avec des gens qui sont membres des Républicains. Donc, si vous voulez, transformez pas cet épisode en une série Netflix, en le feuilleton de l'été. Je sais que ça fait parler. Je sais que les journalistes aiment bien cela. Mais Marion continue le combat des idées quand nous continuons le combat électoral. Et je vous rappelle que le fondateur de la droite populaire, Thierry Mariani, a fait le choix de nous rejoindre pendant ces élections européennes. Et il aura certainement, permettez-moi de finir, aux côtés de Jean-Paul Garot, un rôle majeur à jouer dans la recomposition avec la relance de la droite populaire qui verra le jour d'ici quelques semaines.
Marine Le Pen est la candidate naturelle de votre parti pour 2022, Jordan Bardella.
Je souhaite que Marine Le Pen soit, à titre personnel, candidate à l'élection présidentielle. Maintenant, je ne parle pas à sa place. Elle s'exprimera et fera connaître sa décision en temps voulu. Je considère cette élection présidentielle a acté le clivage dont nous parlons, nous, depuis un certain nombre d'années entre les défenseurs de la nation on va rassembler le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. C'est pour ça que je considère aussi que cette union des droites dont vous avez parlé est un peu restrictive, parce qu'il y a des patriotes à droite, des patriotes à gauche, mais je crois, c'est vrai que compte tenu de l'état des Républicains, nous avons de nombreuses valeurs communes avec les électeurs de
LR. Le Rassemblement National, vous êtes d'accord avec elle ?
Bien sûr, mais c'est ce que nous avons commencé à faire pendant les élections européennes. Nous ne gagnerons pas seuls. Nous aurons besoin, effectivement, d'aller chercher l'ensemble des patriotes qui, aujourd'hui, sont attachés au bon sens, à la paix fiscale, qui veulent mettre fin à l'immigration dans notre pays. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Bardella. Mais cette élection européenne a aussi montré que le clivage gauche-droite apparaissait comme assez obsolète.
Avant questionnaire, nous allons d'abord faire question express.
Le grand jury, question express.
Pour ou contre, Jordan Bardella, le déremboursement de l'homéopathie ?
Contre.
Pour ou contre l'encadrement des loyers à Paris ?
Pour.
Pour ou contre l'égalité salariale entre les joueurs et les joueuses de l'équipe de France de football ?
Pour.
Pour ou contre l'usage du cannabis à visée thérapeutique ?
Pour.
Pour ou contre le retour à la retraite à 60 ans ?
Pour si on part sur 40 annuités pleines.
D'accord, parce que c'est
Oui, mais c'est un oui, mais.
C'est une petite évolution.
Non, non, on défend nous 40 annuités pleines. Si on peut faire 60 ans, on fera 60 ans.
Ah, il n'y a pas si longtemps que vous défendiez vraiment 60 ans.
C'est quand même une évolution. C'est possible de faire, mais je veux qu'on arrive devant les Français en ayant fait toutes les économies nécessaires et en leur disant c'est possible, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. Mais il ne faut pas non plus leur mentir. Le problème de la retraite, c'est le problème de l'emploi. Et nous, on veut 40 annuités pleines avec un départ à l'âge légal.
Donc c'est quand même une légère évolution par rapport à ce que vous disiez il y a quelques mois.
Pour ou contre la PMA ?
Contre. Contre parce que je suis attaché au droit de l'enfant à connaître son père. Connaître son père et sa mère, qui ne nous en déplaise une filiation naturelle, que cela ouvrirait la porte automatiquement à la GPA, puisque cela créerait une discrimination entre les couples homosexuels, à la fois femmes et hommes. Autant je considère, si vous voulez, que comme une majorité de Français, que le mariage pour tous est désormais un acquis.
Donc vous l'approcheriez pas, le mariage pour tous, si
non, et je considère que nous mettrons en œuvre, en l'occurrence dans notre projet, le référendum d'initiative citoyenne, que si certains, effectivement, souhaitent s'en saisir, ils utiliseront le référendum d'initiative citoyenne que nous mettrons en place. Maintenant, je considère qu'il y a d'autres urgences, en l'occurrence. Si nous arrivons au pouvoir, urgence économique, sociale et migratoire.
On en a parlé.
Donc, voilà, préoccupation secondaire, en l'occurrence, opposition, évidemment, à la PMA et à la GPA.
C'est l'heure de question nette.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Jordan. Bonjour. Bardella. Durant cette émission, vous avez salué le bilan de Donald Trump, mais les internautes, eux, veulent avoir votre réaction sur une photo qui a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. On y voit deux corps, celui d'un père et de sa fille, morts noyés dans le Rio Grande au Texas. Ils essayaient de regagner les États-Unis depuis le Mexique. Et donc, c'est une situation triste et injuste. Là, je vous cite Jean-Claude. Et Dominique et Christophe, eux, ils tiennent pour responsable Donald Trump et le durcissement de sa politique sur l'immigration. Donc, vous avez loué le bilan de Donald Trump. Est-ce que, sur ce cas-là, vous estimez qu'il est responsable de ce qui s'est passé ?
Utiliser cette photo, ce drame, pour faire de la politique, je trouve cela abject. Je ne vois pas en quoi cela est de la faute de Donald Trump. On avait déjà essayé de culpabiliser ceux qui prônaient aujourd'hui une régulation de l'immigration avec la photo du petit Aylan, dont le corps avait été échoué sur les côtes en Turquie. Et je trouve que la récupération qui est faite par un certain nombre de personnes qui sont toujours favorables à un accueil toujours supplémentaire des migrants, je trouve ça absolument indigne.
De la récupération.
Et je trouve que cela n'est pas au niveau. Je m'étonne qu'on ait poursuivi d'ailleurs Marine Le Pen lorsqu'elle a montré ce qu'était la réalité de Daesh pour diffusion d'images violentes et que, en l'occurrence, on s'autorise la diffusion de ces clichés qui sont tout
donc,
aussi
vous,
violents.
Vous le mettez sur le même plan ?
Non, je vous parle d'un point de vue juridique. Je vous ai répondu sur l'aspect, l'aspect en l'occurrence politique de Donald Trump, mais je vous dis que je m'étonne que certains journaux, certains médias se croient autorisés à diffuser ce cliché qui est absolument dramatique pour faire de la politique et pour essayer de culpabiliser ceux qui considèrent, simplement considèrent qu'il y a un problème avec l'immigration dans notre pays.
Question,
oui, cette fois-ci, on revient en France. Dans l'Aisne, pour bénéficier du RSA, les habitants donc, vont devoir effectuer 35 heures par semaine d'activités bénévoles pour leur projet de réinsertion. Et donc, du coup, c'est une mesure normale pour certains, comme pour Sky, mais par contre, ça dérange d'autres internautes qui pensent que, dans ces cas-là, ça doit être des vrais salariés et non pas du bénévolat. Est-ce que vous êtes d'accord et vous demandez une contrepartie aux bénéficiaires du RSA ?
Peut-être pas. Oui, mais alors, ça m'apparaît... Enfin, on peut avoir une contrepartie, on peut avoir une journée de bénévolat d'une ou deux jours par semaine, etc. Honnêtement, le principe en soi ne me choque pas. Maintenant, attention toujours à cette idée qu'il faut culpabiliser les chômeurs, les gens qui touchent le RSA, etc. Oui, il peut y avoir des fraudes, il peut y avoir un certain nombre d'abus et il faut au cas par cas être ferme. Mais attention à ne pas culpabiliser, par exemple, en matière de chômage, c'est ce qui a été fait avec l'assurance chômage, les chômeurs, plutôt que le chômage dans son ensemble. Relançons la machine économique, c'est ce à quoi, je crois, devrait s'atteler Emmanuel Macron, ce qu'il n'a pas fait, hein, je vous rappelle, 60 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues en plus depuis son élection.
Sur Montauban et un centre SDF.
Alors, la maire a refusé d'ouvrir un centre d'accueil pour les 60 SDF en pleine période de canicule. Agnès Buzyn dit que c'est abominable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous la soutenez ou pas, la maire?
Je ne connais pas le contexte précis. Maintenant, je m'étonne toujours que dans ce pays, on soit capable d'ouvrir des dizaines de centres d'accueil pour les migrants, mais qu'on ne soit pas capable de le faire pour les sans-domicile français et pour les Français qui dorment dans leur voiture.
C'est votre dernière réponse. Merci, Jordan Hernandez. C'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.